Homme préliminaire. Même et surtout pour votre corps, vous êtes condamné à l'imaginaire. Dans le nord, un pin solitaire qui se désole, morne et solitaire. C'est la perte volontaire de tout héroïsme. La bête noire de Saussure, c'était l'arbitraire. La sienne, c'est l'analogie. Lorsque je résiste à l'analogie, c'est en fait à l'imaginaire que je résiste. Réduire ses besoins, posséder le moins possible, afin de rester vraiment libre. Paysage littéraire, corpus scolaire. Les 12 sur la table du libraire, ville tentaculaire. Solitude partenaire, rite originaire, formule leucocytaire, esprit clair, cortège d'hommes semblant célibataire, roman testamentaire, alimentaire, souvenir involontaire, perspective militaire, pension alimentaire, héros téméraire, caractère oraculaire, voix minoritaire, et ma joie solitaire, fuseau horaire, comique involontaire, crise suicidaire, se vêtir d'air, faille identitaire, essai militaire, sculpture involontaire. Ce sera une sorte d'inventaire. Mais si le temps venait à me manquer, au dernier moment, il me suffirait d'un petit quart d'heure pour dresser mon inventaire. Donc mes histoires d'abord, et en dernier lieu, si tout va bien, mon inventaire. On est sorti des courants d'air. L'auto-déception est le seul art populaire. Nous sommes tous des volcans en croissance qui attendent l'heure de leur éruption. Quant à savoir si elle est proche ou lointaine, nul assurément ne le sait. Pas même le bon Dieu.
Vous voulez travailler avant ou après la mort ? M'a demandé sans sourciller la dame du bilan de compétences. Et moi, comme un con, j'ai répondu après. C'est comme ça que je me suis retrouvé à œuvrer pendant 3 ans dans les ponts funèbres. Bizarrement, ce métier m'a remis dans le mouvement de la vie. L'an dégèle, comme si j'étais venu me réchauffer auprès des familles endeuillées. Il est vrai que j'aurais pu tenir encore un peu et prolonger le séjour à l'autre rive. C'est le nom qu'avait donné Raphaël Confineau à sa boutique située à quelque part des urgences de l'hôpital Cochin. Un bon emplacement. La preuve, c'est le nombre d'enseignes de ponts funèbres accolées sur les 20 mètres de notre trottoir. Dans l'ordre d'apparition, l'autre rive, PFG, Rock Éclair, Service funéraire de Paris. Je ne m'étais pas trompé d'enseigne. J'ai pu y exercer le métier d'assistant funéraire et celui de maître de cérémonie comme je l'entendais. Du reste, je n'aurais pas tenu le coup si je m'étais engagé dans les services funéraires de Paris. N'ayez crainte, je prendrai le temps de vous en parler. En revanche, je ne vous raconterai pas forcément dans le détail les années d'errance qui ont suivi mon départ de l'autre rive. Un trou de 12 ans dans ma vie que je ne cherche pas ici à camoufler. Au printemps dernier, j'ai traversé le cimetière. C'est très beau jour, il y avait une très belle lumière. Il y avait des herbes folles partout, dans les interstices, entre les pierres, les cailloux. En me laissant guider par elles, sans chercher l'emplacement d'une tombe précise, j'ai découvert des sentes inaperçues, le long du bord d'enceinte. J'ai marché comme ça pendant une heure, comme halluciné. Deux promeneurs m'ont abordé pour me demander où était la tombe de Molière. Ce sont eux qui m'ont réveillé. Depuis, je me suis demandé si c'était possible de partager cela avec un groupe de 10-12 personnes, en les embarquant avec moi dans une sorte de rêve éveillé. Quelques jours plus tard, j'y suis retourné pour tenter de revivre la même expérience en naviguant à vue dans le même secteur. Mais la lumière n'était pas exactement la même. Mon état intérieur non plus. Les herbes folles avaient été coupées, le charme était rompu. Ce n'était pas le bon jour, pas le bon heure. Il valait mieux revenir sur ses pas, afin de ne pas abîmer le souvenir de cette première promenade hallucinée. C'est comme lorsqu'on est arrêté par un tableau dans un musée, quand il se passe vraiment quelque chose entre le tableau et soi. Eh bien, ça n'a lieu qu'une fois. Il ne faut pas chercher à le répéter. C'est juste le souvenir de cette illumination que l'on vient vérifier. Si l'on retourne le voir, on le sait sans savoir. On a beau le savoir, on y retourne quand même. Et c'est comme ça que tout s'évanouit. Est-ce que vous savez s'il y a encore de la place ? C'est l'une des premières questions que pose le conseiller funéraire. C'est concret. Il y a des gens qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Une fois que vous avez le numéro de la concession, vous appelez la conservation du cimetière où tout est archivé. Ils peuvent vous dire qui est enterré, la date de la dernière inhumation, le nombre de places, etc. En général, les gens modestes s'en souviennent. Et souvent, ils vous règlent les obsèques avant même qu'elles aient lieu. Tandis que, qu'avec des personnes d'un milieu bourgeois ou carrément de la haute, c'est toujours plus compliqué. Leurs réponses restent évasives. Trop habitués à déléguer, certains ne peuvent s'empêcher d'être condescendants. De toute façon, les jours qui précèdent l'enterrement, les marbriers se rendent sur place, ouvrent la sépulture, vous disent de quoi ils retournent. Certains caveaux datant du début du siècle dernier sont si profonds que les cordes des porteurs ne suffisent pas pour atteindre la case où déposer le cercueil. Le 21 septembre. C'est pas elle. Non, ce n'était pas elle. Elle ne se ressemblait pas. Comme une branche morte dont on aurait retiré l'écorce. Un visage de cire dont les traits auraient été remodelés. Un cadavre dans une boîte. Couvercle vissé qui, à son tour, sera glissé dans un habitacle construit en sous-sol. Jeu de dalles pour le recouvrir et, juste au-dessous de la pierre tombale, ce qu'on appelle le maître sanitaire ou vide sanitaire. Quelques semaines plus tard, ses noms et prénoms ainsi que l'année de sa naissance et celle de sa mort seront gravés sur la tombale. Qui se souciera alors d'entretenir la sépulture ? Nul ne le sait. Peine perdue, maintenant qu'elle est pleine. De toute façon, ici inhumée, ce n'est pas elle, c'est sa dépouille, en train de s'évider, seule, dans le noir. En amont de ta première performance au Palais-Chaise en 2017, tu avais rassemblé des notes de lecture dans un document Word. Au moment de l'enregistrer, sont apparus les trois premiers mots du texte. promenade au père. La chaise est passée à la trappe. Et cela t'a semblé pertinent. Tu l'as gardé en guise de titre. En abordant ces contrées, tu avais senti à maintes reprises planer l'ombre du père. La figure du père en général, plus que celle de ton père en particulier. Et aussitôt te sont venues à l'esprit nombre d'associations. Comme si l'enseigne pompe funèbre appelait irrésistiblement le couple père et fils. Dans des temps pas si éloignés, il était fréquent que les sociétés de pompe funèbre soient des entreprises familiales, le père travaillant avec le fils prenant la suite du père, le père embauchant femme et enfant. Pompe et funèbre comme père et fils. La pompe du père éclipsant le funèbre du fils. Tant que le père prend toute la lumière, le fils se contente d'un coin d'ombre. Depuis combien de temps le père pompe-t-il l'air au fils? Se désaltère-t-il auprès de lui? La vitalité du père dépend-elle de celle, moindre, du fils? Père en majesté, fils en pièces détachées. Chacun attendrait-il son heure? Chacun aurait-il droit à son quart d'heure de cécité-félicité? Le moment de son mariage. Le moment de son non-mariage. Le moment de ses vraies fausses obsèques. Le plus beau moment de sa vie. À quel moment le fils perd-il le fil? Qu'est-ce qu'il attend pour défaire l'ouvrage du père? Les peurs du fils coïncident-elles toujours avec celles du père? Les révoltes du fils ne se détachent-elles jamais vraiment de l'emprise du père? Toujours la même histoire. Une histoire basse communiquant. Quand l'un des deux se replie, l'autre s'en trouverait presque agaillardi. Ce sur quoi bute leur relation? Suffit-il de le nommer? Le père est-il toujours l'arbre qui cache la forêt? Le fils, la feuille qui tremble? La vie du sexe se transmet-elle de l'un à l'autre? Le fils doit-il attendre l'abord du père pour prendre sa place? Se déplacer enfin? À quel moment le fils devient-il père? Le père-fils. Tant que le fils prend la place du mort, le père tient encore le boulot. Est-ce pour te défendre de prendre la place du mort que tu t'es résolu à prendre celle du propre mort? Pour comprendre de quoi il veut tourner? Durant tes années de service funéraire, un cran d'arrêt t'empêchait de t'identifier au mort. Jusqu'au jour où, salle de la coupole, au crématorium, lors de l'une des dernières cérémonies que tu as eu à conduire, tu t'es bel et bien identifié à celui qui était dans la boîte. Il avait ton âge, deux grandes sœurs et un frère, une configuration familiale assez semblable à la tienne, même milieu social. Il était homosexuel, exerçait une profession artistique, et tous les éléments de sa biographie rapportés par ses proches t'avaient regardé. Il s'était suicidé chez lui, son corps avait été transporté à l'IML. Son frère est venu à l'autre rive avec sa compagne. Elle semblait vouloir ménager, en prenant en charge l'organisation des obsèques, tissant avec moi une imprimée. Ils avaient cristallisé sur ma personnalité. Je n'avais pas su me protéger. Lors de l'hommage, j'étais comme médusé. Avec, à quelques mètres de moi, la silhouette courbe du père, le regard fixe de la mère, ses sœurs et frères tentant de faire votre figure, je ne voyais que leur solitude, leur douleur impossible à partager. Le geste de leur cadet ne leur était pas forcément adressé. Ils ne cherchaient pas à l'interpréter. Désormais, leur faudrait vivre avec. Et cela ouvrait une brèche difficile à refermer. C'est au moment de les voir défiler l'un après l'autre près du cercueil que mes jambes se sont mises à flageoler. Je n'étais plus à ma place. J'étais le mort. La décision de quitter l'autre rive était alors déjà prise. Est-ce pour cela que tu avais baissé la garde, te laissant atteindre par le destin de ce petit frère? Il était temps de remuser le costume du croque-mort au vestiaire des accessoires. Ce trouble que tu venais de ressentir était peut-être outré. Mais il arrive que l'on devienne sa propre caricature. La tentation de jouer avec ses peurs est parfois grande. À soi-même, on se tend des pièges, envahi par autant d'images gelées que de phrases toutes faites. En creusant ce sillon, tu n'avais plus rien à attendre, plus rien à apprendre. La parenthèse s'éloignait déjà. Le vide était ailleurs. Parmi les feuilles volantes que j'ai conservées de ces années pompes funèbres, il y a ces notes, datées du 16 octobre 2006. Bribes de phrases écrites à toute allure au stylo bille. Je me souviens très bien du visage de la femme qui m'a livré ses pensées, ses yeux au vol. Son regard bleu, très pâle, ses mains noueuses, l'intensité de notre première rencontre, un samedi, en tout début d'après-midi. J'étais seul à l'agence. Dès qu'elle est entrée, son regard l'a saisi. Elle souhaitait voir Raphaël. Je lui propose de s'asseoir, on lui offre un café. Elle me raconte alors son histoire. À 10 jours d'intervalle, elle avait perdu sa fille et son homme. Il n'était pas son père, précise-t-elle. Terrassé par la douleur d'apprendre le suicide de sa fille, il l'avait soutenue autant qu'il avait pu. Durant leurs années de vie commune, il l'avait toujours enveloppée de la même affection ardente. Quelques jours après les obsèques, il meurt subitement d'un arrêt cardiaque dans la rue. Dès lors, il lui avait fallu traverser ses deuils, fouiller en elle, mettre en place des rites qui la soutiennent dans la reconquête de pans de vie. Marcher dans les rues de Paris des journées entières, s'immerger dans le flux de la ville, y trouver des réserves d'énergie. Et puis, chaque année, au premier jour d'été, retourner à l'endroit où les cendres de son homme avaient été dispersées, en pleine mer, s'y baigner. Les paroles qu'elle m'a confiées, et je les ai notées juste après son départ. À chaque fois qu'elle venait me voir, je remettais le livre que j'étais en train de lire. Elle me le rendait quelques semaines plus tard dans un sac en plastique. Elle me disait que je lisais des choses trop compliquées. Ces mots à elle, les voici. On se sent vivre à moitié. On se sent seul. Ce sont mes morts. Puisque j'ai la foi, j'ai l'espoir de les revoir. Je me sens plus proche de celles qui sont seules. On se trouve diminué. Faut tout prendre sur soi. Faire tout toute seule. On était jour et nuit dehors. Ça fait un gros vide. Ça fait un silence. Il est toujours présent, bien sûr. On ne se plaît pas d'être veuve. On ne se plaît pas. Je ne peux pas pleurer. Le cerveau est envahi. Il n'y avait rien à faire.
faut du temps. C'est vrai que c'est un vide. J'allume la cheminée. Au début, je le voyais là, à tout instant. Dans mon lit, je restais à ma place. Généralement, les hommes partent avant les femmes. J'étais bien entouré. On ne peut pas laisser une journée sans travail. Personne à qui parler. Le manque, c'est quand même la présence. Je dors toujours du même côté. Son bateau s'appelait Simplé. Nous sommes obligés de vivre. Faut du sentiment dans la vie. Ça vous saute à la figure. Depuis que mon mari est mort, je cherche partout. La maison est habitée. Il y a quelque chose de lui qui reste. Le lit est froid. Le lit est très froid. J'ai toujours su qu'il m'aimait, mais j'ai souvent trouvé qu'il m'aimait mal. L'autre est toujours autre. Ce qui manque, je crois que les morts sont vivants. Je me sens amputé, amputé de lui. Il y a des mots qui commencent à faire mal. Je suis couple avec un mort. L'homme que j'aime est mort. J'ai enterré sa dépouille, mais je n'ai pas enterré mon amour. Il gardait tout, mais il a écrit. C'est une absence de plus. Il a fallu marcher, il a fallu tenir. On ne comptait pas les jours. Il m'arrive aujourd'hui de dormir de son côté.